Bonsoir Alexandre Sobo.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de France Industrie, l'organisme qui représente la trentaine de filières industrielles françaises. Vous étiez aujourd'hui présent à Bercy pour cette réunion autour du ministre Marc Ferracci pour élaborer une position française commune. Avant d'évoquer les réponses qui ont été apportées lors de cette réunion, d'abord l'état d'esprit de l'industrie française à ce jour. Est-ce que vous êtes incertain, inquiet, catastrophé ?
Catastrophé jamais, mais inquiet, oui. On voit de l'inquiétude partout, de l'attentisme par rapport aux conséquences de ces annonces, d'autant plus que comme elles sont à la fois brutales et très importantes, les effets sont difficiles à évaluer. Je crois que le président américain a dit qu'il réouvrait une phase de discussion. Alors, dans quel périmètre, avec qui, donc on est dans cette phase d'incertitude où tout le monde se demande ce qui va se passer. Et une deuxième inquiétude, c'est que quand on regarde l'histoire économique, comme les épisodes de mise en place de droits de douane, c'est bon pour personne, notamment des deux côtés de l'Atlantique. Encore une fois, se poser la question de droits de douane avec des pays qui ont des très bas coûts, des gros niveaux de soutien, des politiques assez agressives en termes de gains de parts de marché, au détriment de l'industrie européenne, comme on l'a vu dans une période récente, c'est des questions qui se posent, mais entre deux pays développés, alliés, partenaires historiques, avec des chaînes de valeur intégrées, des niveaux de vie et des coûts du travail assez proches, ça a honnêtement pas beaucoup de sens. Donc la question, et c'est ce que finalement on s'est tous dit à la fois à l'Élysée la semaine dernière et cet après-midi à Bercy, c'est comment est-ce qu'on se bat tous ensemble pour essayer de revenir à une situation plus raisonnable.
Est-ce que Éric Lombard l'a dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie et des Finances, qu'il allait voir s'il fallait peut-être, puisqu'il y avait 28 000 entreprises qui exportaient aux États-Unis, entreprises françaises, il a dit qu'il fallait peut-être protéger certaines filières et certaines entreprises. Est-ce que vous avez identifié les secteurs les plus en danger par cette situation, cette crise sur les droits de douane?
La difficulté, c'est qu'en fait, on va en trouver partout. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont fournisseurs de secteurs impactés, vous avez des gens qui avaient développé un business aux États-Unis, qui n'ont qu'une unité de production en France, qui vont se trouver hyper pénalisés.
Mais là, vous n'avez pas été un peu plus précis?
On est au tout début de l'examen, et en plus, à la fois les droits de douane ne se sont pas stabilisés, mais non plus les effets, parce que la réponse de l'Europe n'est pas encore calée. On a annoncé une réponse ferme et rapide, mais en même temps, tout le monde fait le constat qu'une inflation des droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique, ça va pas aider. On va avoir là les effets inflation en Europe qui vont aussi intervenir. On va encore plus fragiliser les chaînes de valeur et donc tout notre tissu industriel. Donc, on est dans cette période où on essaye, pour l'instant, le vrai objectif qu'on s'est tous donné, c'est comment est-ce qu'on peut aider la France et l'Europe à être le plus fort possible à la table des négociations quand elles vont s'ouvrir avec les Américains.
Vous aussi, vous êtes dans l'industrie. Est-ce que vous, Alexandre Sobo, enfin d'autres industriels qui étaient autour de la table, vous dites plutôt, appuyez plutôt sur la pédale douce en termes de riposte sur les droits de douane plutôt que d'appuyer et d'être dans le rapport de force avec Donald Trump parce que ça va nous pénaliser?
Non, mais il faut être à la fois dans le rapport de force pour pas arriver faible à la négociation et avec une vraie idée qu'il faut absolument négocier parce que l'inflation des droits de douane des deux côtés de l'Atlantique, ça peut pas être bon.
Alors, est-ce que, puisque vous étiez dans le secret des discussions de Bercy et de l'Élysée, est-ce qu'à un moment ou à un autre, comme hier avec Alain Madelin, vous vous êtes posé la question d'agir sur la propriété intellectuelle?
On n'en est pas là. Je pense que...
Ça, c'est l'arme nucléaire.
Il y a des sujets sur, tout ce qui va être le numérique, tout ce qui est la propriété intellectuelle. Il peut y avoir aussi des questions sur les flux de capitaux.
Dites le numérique, c'est-à-dire que ça a été évoqué aujourd'hui lors de cette réunion, la taxation des services numériques.
Tous les sujets ont été évoqués, non pas autour d'une idée, on rentre dans le détail, puisque c'était une réunion avec une bonne vingtaine de filières autour de la table, donc on a vraiment parcouru rapidement les enjeux de chacun. Mais la question qui se pose, c'est il faut que tout le monde contribue à ce qu'on ait la meilleure position de négociation possible. Donc, à la fois en transversal et par filière, quels sont les enjeux? Je vais prendre un exemple.
À harmoniser avec l'Europe, après.
Oui, mais il faut déjà qu'on ait une photo...
Et harmoniser entre vous aussi.
Il faut déjà le caler entre nous, au moins l'avantage de cette période.
Pour que ça soit un peu plus concret.
Non, mais je vais prendre un exemple des secteurs qui sont très exportateurs aux États-Unis. Et pour lequel le business aux États-Unis est finalement très local et avec très peu de flux vers l'Europe. peut prendre l'automobile. Les volumes d'exportation de voitures américaines en Europe sont très faibles. Et quand vous voyez les voitures qu'ils ont là-bas, elles sont pas complètement adaptées aux clients. Donc, faire des rétorsions sur les importations de voitures américaines en Europe, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Mais qu'est-ce qu'on importe comme produit américain sur lesquels on pourrait faire de la rétorsion?
Bah c'est toute l'analyse qu'il faut faire par filière.
Moi, j'ai pas l'impression de consommer tous les jours énormément de produits manufacturés aux États-Unis, fabriqués aux États-Unis.
Bah, ils sont en tout cas avec une marque américaine, de votre téléphone à votre jean. Enfin, il y a plein de produits de consommation courante qui sont.
Je cite typiquement la liste qui est exposée à des droits de douane de la part de l'Union européenne qui a été proposée. Alors encore faut-il qu'elle mette d'accord les États membres. Mais parmi les produits qui pourraient être davantage taxés, le soja, la volaille, le riz, plusieurs fruits, donc pas mal de produits agricoles, le bois, les motos, les produits plastiques, les équipements électriques, les produits de maquillage, donc ça fait quand même une sacrée liste, les produits américains qui pourraient être taxés en retour.
J'ai une question, est-ce que Apple, par exemple, peut contourner, parce qu'elle fabrique son iPhone en Asie, d'éventuels droits de douane européens sur des produits américains?
Elle peut faire ce qu'elle vient de faire. C'est-à-dire qu'elle a produit pendant 3 jours, elle a fait produire en Chine et en Inde des milliers d'iPhones, elle les a mis dans 5 avions cargo, qui sont bourrés au maximum, et qui sont arrivés juste avant l'établissement des droits de douane aux États-Unis.
Mais
voilà.
Encore une fois,
elle peut faire la même chose en Europe.
Les règles de taxation, c'est des codes douaniers et des pays d'origine. Donc, un produit, même s'il est sous une marque américaine qui arrive de Chine, sera taxé comme
un code
douanier chinois.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, en réalité, on a en fait assez peu de marge de manœuvre pour faire de la rétorsion sur des produits fabriqués aux États-Unis.
Et la question,
en Europe,
la question, c'est pas tant est-ce qu'on a des marges de manœuvre, hein. C'est est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Europe de taxer tel ou tel produit.
Là où ça pourrait être important, c'est sur l'énergie.
Pas qu'on négocie.
Mais si, parce qu'on apporte par exemple beaucoup de.
Je vois pas quel est notre levier de négociation.
Oui, mais l'énergie, ça ferait monter les prix.
Mais absolument. C'est pour ça que l'Europe est très prudente par rapport aux droits de douane.
Mais alors typiquement, Pierre Gattaz, parce qu'on parle beaucoup des services numériques et des GAFAM, de les taxer. Est-ce que ça, c'est un levier de pression suffisamment important? Est-ce que ça peut avoir réellement un impact ou c'est une goutte d'eau?
Bah écoutez, moi je ne sais pas ce qu'on dit à Bercy, mais l'Europe, on parle comme un des scénarios. Alors après, il faut regarder en effet ce que ça peut provoquer, encore une fois, comme inflation. Parce qu'il ne faudrait pas que taxer Google, Netflix et les autres, ce qui paraît une très bonne idée, augmente les prix des services en France. Parce que malheureusement, on n'a aucun concurrent.
Ce sera inévitable
en
pour
Europe,
le coup,
en France,
si on taxe les services numériques.
Encore toute l'analyse qu'il faut faire, c'est la capacité de substitution. C'est-à-dire, quand vous taxez quelque chose qui rentre, si vous n'avez pas une capacité à produire ou chez vous, ou avec un autre fournisseur à un prix compétitif...
C'est de l'inflation.
C'est de l'inflation. En fait, c'est le consommateur du pays qui met en place la droite de douane qui va payer la taxe.
Et dans les produits
c'est pas
numériques,
le fournisseur.
On n'a pas la substitution.
Et donc, à chaque fois, c'est pour ça que le travail va prendre du temps. Et c'est pas facile de répondre aujourd'hui sur qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui l'est pas. Il faut faire toute cette analyse pour savoir est-ce qu'on est capable de substituer un produit européen. Par exemple, Pierre est bien placé pour le savoir, et dans l'aéronautique, vous avez des fournisseurs en Europe qui fournissent Boeing en Europe, Boeing aux États-Unis et Airbus en Europe, et le contraire. Donc à un moment, si demain, ceux qui sont aux États-Unis fournissent les États-Unis, ceux qui sont en Europe fournissent l'Europe, et qu'on a rééquilibré les flux, le changement sera limité. En revanche, vous avez des situations beaucoup plus déséquilibrées.
Je ne suis pas chef d'entreprise comme vous deux, mais vous devez quand même identifier vos concurrents américains, vos concurrents chinois.
Bien sûr.
Enfin, vous savez exactement quand même comment sont faits vos produits et qu'est-ce qui vient de Chine, qu'est-ce qui vient d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis, d'où vous voulez. Vous par exemple. Donc, je ne comprends pas pourquoi il faut des réunions pour vous faire, pour rétablir bien une sorte de feuille de route. Pourquoi on perd encore du temps? Vous voyez, c'est un peu ça que je...
Pardon,
vous connaissez
Madame Chevrillon, c'est pas des réunions et des réunions. Il y a eu une réunion à l'Élysée pour annoncer un certain nombre
aujourd'hui.
De grands principes.
Ouais.
Et ensuite, il est décliné dans le courant de la semaine avec les différents secteurs de l'économie. J'allais dire, la mise en mouvement de cette analyse, les gens vont fournir des notes. C'est pas que des entreprises. À un moment, il faut quand même consolider par filière. Il y a des activités transversales.
Et se mettre d'accord aussi avec l'Union européenne et harmoniser tout ça au sein de l'UE.
Il faut ensuite que tout ça se coordonne au niveau européen parce que la réponse...
Qu'est-ce que vous pensez de l'offre qui a été faite par Mme von der Leyen aujourd'hui? Dire zéro droit de douane.
On est évidemment favorable,
sûr.
En tout cas comparé à la situation qui menace.
C'est une réponse qui vous paraît audible et crédible.
C'est une réponse, mais il faut l'emmener. Encore une fois, la réponse, dans son principe, elle est évidemment, elle sonne agréablement à l'oreille d'un industriel, surtout quand, comme Pierre et moi, on est convaincus de la qualité de nos produits, de la qualité de nos équipes, et du fait que, avec des pays comme les États-Unis, on est serein sur le fait qu'on gagne, on perd, mais en tout cas, on joue à armes égales. La vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire une vraie zone de libre-échange.
Ouais, sauf que Donald Trump a déjà dit niet sur cette proposition.
Je crois qu'il a dit que c'était insuffisant.
Il a dit effectivement, il a jugé pour l'instant sur cette proposition d'exemption de droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels. Il a dit effectivement pour l'heure c'est insuffisant. Mais vous me reprenez, ça veut dire quoi? Vous estimez qu'il y a encore un chemin possible sur cette proposition-là?
Encore une fois, l'objectif qu'on aille vers un désarmement plutôt que vers une escalade est un bon objectif. Donc toutes les pistes qui sont à creuser, qui nous rapprochent de cet objectif, sont bonnes, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, si on décide de faire une vaste zone de libre-échange, ça veut dire qu'on est d'accord pour la protéger ensemble. Ouais. Ça veut dire que les mesures qu'on va prendre contre les Chinois, si un jour les Chinois ont des pratiques agressives, ou demain contre je ne sais pas qui, il va falloir qu'on les décide ensemble, parce qu'on peut pas avoir une grande zone de libre-échange avec des barrières tarifaires différentes.
Donc
c'est un changement de paradigme complet, et de l'Europe aussi. Ça veut dire que nos approches autour des directives sur le climat du MACF ne sont plus compatibles avec une grande zone de libre-échange avec les États-Unis. Donc, il faut tirer le fil jusqu'au bout. Et on s'aperçoit que derrière le côté, à court terme, attractif ou sympathique de cette proposition, ça va poser plein de questions pour les États-Unis et pour l'Europe. Juste un dernier point. Allez-y. Derrière le zéro tarif, il y a tout le sujet des protections non tarifaires, des réglementations européennes. Les Américains sont souvent plaints du fait que notre empilement de normes était une contrainte pour leurs exportateurs.
J'aimerais qu'on évoque avec vous, Pierre Gattaz, le poids des milieux d'affaires américains sur Donald Trump. Mais juste avant, une dernière question, Alexandre Sobo, sur cet appel au patriotisme qui a été lancé par Emmanuel Macron en disant aux entreprises françaises, arrêtez le temps des négociations d'investir aux États-Unis. Pierre Gattaz nous disait il y a quelques minutes, moi je ne le ferai pas, je ne peux pas me le permettre. Est-ce que cette proposition, elle trouve un écho dans le secteur de l'industrie?
Elle trouve un écho naturel si on accepte de la regarder pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que ce n'est pas universel. Pierre a beaucoup d'activités aux États-Unis, il doit les développer, il a des clients à satisfaire, il ne peut pas s'arrêter. En revanche, le pari de Donald Trump, c'est que face à cette droite douane, les industriels vont se dire « je ne peux plus importer aux États-Unis, je vais donc m'implanter aux États-Unis et fabriquer aux États-Unis ». Je pense que tant qu'on est dans cette phase de négociation, on n'est pas obligé de se précipiter à faire des annonces de ce type qui vont plutôt fragiliser la position de négociation européenne. Et puis, le deuxième phénomène qui se produit, et là que je vois tous les jours dans cette période d'incertitude, c'est que pour l'instant, les gens ils suspendent les investissements partout. Parce que l'activité se tasse, parce qu'il y a de l'incertitude, parce que la croissance,
tout
les orientations. Donc, le sujet est mis sur pause parce qu'on a mis l'incertitude à un niveau maximum. Mais je crois que jamais le président de la République n'a demandé à quelqu'un qui a un marché, une activité qui se développe et un projet qui est en cours d'exécution de l'arrêter. C'est pas du tout ça la question. En revanche, si effectivement, au lendemain d'une annonce comme celle de Donald Trump, vous avez 50 grands industriels européens qui, au lieu de chercher à aider leur pays et à se battre pour revenir à la raison, ils disent tous en réponse aux droits de douane, j'annonce 50 millions, 100 millions, 200 millions d'investissements pour faire une nouvelle usine aux États-Unis. On va plutôt conforter la partie adverse et rendre la négociation de l'Europe plus difficile.
Pierre Gattaz, sur le poids des milieux d'affaires pro-Trump, parce que les critiques commencent à monter. Il y a eu le très puissant patron de la banque américaine JP Morgan Chase, Jamie Dimon, qui dit s'inquiéter du risque d'inflation et du ralentissement de la croissance. On a entendu aussi un milliardaire très proche de Donald Trump, Bill Ackman, exprimer ses doutes et demander une pause dans ses droits de douane. Idem pour Elon Musk, qui aujourd'hui a traité, je le cite, de crétin. Ce sont ses mots, ça vous fait sourire, le conseiller au commerce de Donald Trump, Peter Navarro, dont on verra le portrait dans un instant avec Raphaël Grabli, qui est l'architecte de cette politique douanière. Il l'a qualifié de bête comme un sac de briques. Est-ce que les milieux d'affaires peuvent avoir une influence sur Donald Trump et le faire infléchir?
Écoutez, on peut l'espérer. Là, j'ai l'impression qu'il joue vraiment en solo avec quelques conseillers contre tout le lobbying, contre l'automobile américaine, contre l'aéronautique américaine. Donc j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il est seul au monde. Il va jusqu'au bout du délire, comme on dit, ou peut-être de son obsession, qui donnera peut-être des choses avec des négociations qui peuvent se mettre en place. Je ne sais pas. En tout cas, pour
Mais
moi,
comment vous expliquez que ses amis tout puissants pour l'instant ne réussissent pas à le faire infléchir?
Écoutez, là, c'est, il faut peut-être leur poser la question. Il faut, je n'ai pas de contact récent avec les milieux d'affaires américains.
Ce que je veux dire, c'est qu'il a, parce qu'il instaure une forme de régime de la peur. C'est ce que soulignait tout à l'heure Jacques Attali, et je pense que c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que personne n'ose aujourd'hui le contredire, s'opposer. S'opposer à Donald Trump.
Alors ça va peut-être s'effriter un peu avec le temps, oui. Avec les, je dirais, tout ce qui se passe aux États-Unis, avec Wall Street qui tombe, on va voir, mais ce que j'espère d'ailleurs.
Alors attendez, vous dites personne n'ose s'opposer à Donald Trump. Écoutez ce sénateur républicain de Caroline du Nord tout à l'heure.
Pour expliquer pourquoi vous vous en prenez à des partenaires avec lesquels nous avons une très longue histoire, une très longue relation. Si vous n'êtes pas responsable de cette décision, j'essaie juste de savoir qui je vais devoir étrangler si tout ça s'avère foireux et qui je vais devoir remercier si tout ça fonctionne.
Donc même au sein de son camp, monsieur, les critiques se font entendre.
Oui, mais c'est une critique isolée.
C'est une critique
isolée pour l'instant.
Mais on voit au sein du camp des Républicains, il y a quand même des voix qui s'élèvent. Ça commence. Les milieux d'affaires aussi. Le Wall Street Journal, qui est la bible des hommes d'affaires, qualifie la politique de Trump de stupide.
Mais il faut espérer que ça se fissure, madame. Il faut vraiment espérer que ça se fissure et que le monde économique et notamment américain se rendent compte qu'on va dans un mur avec cette brutalité incroyable. Donc voilà, moi j'espère que on se sortira par le haut de tout ça, mais pour l'instant il faut qu'on soit en défensif et qu'on soit très fort sur les parades et sur ce que disait Alexandre, c'est-à-dire en fait la France et l'Europe, on doit négocier au maximum aujourd'hui, mais avoir le bâton derrière le dos pour pouvoir taper à un moment donné.